Voix nue. Toute cette semaine, Martin Kenéen rencontre Philippe Solers. Ce soir, Folie française.
Philippe Solers, le 28 janvier 1999, à la une du Monde, on trouve un article de votre plume dont je vous laisse nous lire un extrait.
La France moisie. Elle était là, elle est toujours là. On la sent peu à peu remonter en surface. La France moisie est de retour. Elle vient de loin. Elle n'a rien compris ni rien appris. Son obstination résiste à toutes les leçons de l'histoire. Elle est assise, une fois pour toutes, dans ses préjugés viscéraux. Elle a son corps, ses mots de passe, ses habitudes, ses réflexes. Elle parle bas, dans les salons, les ministères, les commissariats, les usines, à la campagne, comme dans les bureaux. Elle a son catalogue de clichés qui finissent par sortir en plein jour, sa voix caractéristique. Des petites phrases arrivent, bien rancies, bien médiocres, des formules de rentiers peureux, se tenant au chaud d'un ressentiment borné. Il y a une bêtise française sans équivalent, laquelle, on le sait, fascinait Flaubert. L'intelligence en France est d'autant plus forte qu'elle est exceptionnelle. La France moisie a toujours détesté pêle-mêle les Allemands, les Anglais, les Juifs, les Arabes, les étrangers en général, l'art moderne, les intellectuels coupeurs de cheveux en quatre, les femmes trop indépendantes ou qui pensent, les ouvriers non encadrés et, finalement, la liberté sous toutes ses formes.
Philippe Solers, cette France moisie, c'est donc cet article que Le Monde met en une le 28 janvier 1999, il y a donc 18 ans. Comment vous expliquez que ce texte ait toujours une telle actualité aujourd'hui ?
Mais qu'est-ce que je n'ai pas entendu après avoir publié ce texte ? D'abord, il paraît en une du Monde, autrement dit de la Pravda, n'est-ce pas ? Ensuite, je touche au nerf sciatique fondamental de quelque chose qui va évoluer. C'est comme si je n'avais écrit que ça. Ça fait à peu près 3 pages dans mes œuvres complètes. C'est comme si j'avais écrit que ça dans ma vie. C'est beau. Alors donc, j'ai touché quelque chose puisque à peine l'article était paru que des protestations, ça a été un tollé, j'ai entendu de tout, par exemple, Jean-François Kahn, pendant des mois, répétant sans cesse que la France moisie de Philippe Solers était un texte maurassien, un texte de rebatté, un texte fascisant, donc, vous voyez, c'est ça, extrémiste, alors que pas du tout, ratisse très large. Tout récemment, vous avez entendu le candidat à la présidence de la République, François Fillon, s'en prendre à ceux qui parlent de France moisie. Enfin bref, ça n'arrête pas. Et encore une fois, je n'ai jamais écrit rien d'autre. Le problème, c'est que c'était un article violemment patriotique, justement. C'est-à-dire que tout le moisi devait être décapé par une espérance nouvelle, c'est-à-dire la création qui a eu lieu au XXe siècle. C'est ça que je dis, enfin, dans cet article. Et la France moisie, elle veut pas de tout ce qui s'est passé au XXe siècle. Elle a honte, elle est repliée, elle se replie de plus en plus. Et voilà. Donc, il y a quelque chose qui n'a jamais été analysé à fond, historiquement, en France.
Oui, vous aimez dire, Philippe Solers, que la France que vous aimez, en tout cas, vous dites la France moisie, ce qu'elle n'aime pas, c'est l'innocence, la gratuité, l'improvisation et le don des langues. Toutes choses que vous défendez,
oui,
dans vos combats, dans vos contre-attaques. Cependant, il y a un auteur français qu'on retrouve dans vos complots, qui est Louis-Ferdinand Céline. Et au début du voyage, il y a cette conversation, on se pose la question de ce que c'est que la race française. La race française, ce grand ramassis de miteux, venu vaincu des quatre coins du monde, il ne pouvait pas aller plus loin à cause de la mer. Vous vous sentez aussi
De l'océan.
De cette race française?
Non, le mot race est absent de mon vocabulaire. Il faut replacer tout ça dans l'époque où c'est écrit, avec toutes les conséquences dans la vie même de Céline. Comment il a pris feu, etc. Ça nous entraînerait à examiner bien les dates avec précision. Quand j'écris ça, moi, nous sommes en 1999, sauf erreur. C'est-à-dire, ça n'est pas en 1937, 38, 39. Qu'est-ce qui s'est brusquement décalé là? Mais voyons, enfin quand même, qu'est-ce qui se passe en juin 1940? Il va y avoir un armistice signé par le maréchal Pétain avec l'occupant nazi. C'est tout simple, hein. C'est ça le vrai problème. La honte de la défaite après, voilà. Alors après, ça va être la honte de la collaboration avec quand même un des systèmes totalitaires les plus hallucinants du monde, mais aussi l'émergence d'une autre collaboration, enfin, avec le Parti communiste français qu'il va falloir ingurgiter avant que arrive un personnage considérable dans la manœuvre, qui n'est autre que le président Mitterrand. On a gagné, qui a pour mission d'avaler le Parti communiste, c'est fait. Mais alors, attendez, le travail n'est pas fini. Il faut maintenant reprendre toute l'histoire et éliminer tout ce qui a pu se déclarer socialiste sur plus d'un siècle. Enfin, est-ce que vous imaginez le travail? Vous imaginez ce travail qui se fait en France? Et c'est pour ça que c'est ce qui se passe en France qui est intéressant. Dans aucun autre pays, vous n'avez une remise en question historique. Pour quelle raison? Mais parce que la France est le pays de l'histoire. C'est le pays de la Révolution française, unique en son genre, partout imité et jamais égalé. Des prises de pouvoir, certes. Il faut lire le livre magnifique de Jean-Claude Milner qui s'appelle « Relire la Révolution française » où il démontre que c'est un événement gigantesque, énorme, qui a toujours été fossoyé, recouvert, etc.
Mais alors vous, Philippe Solers...
C'est pour ça que c'est intéressant d'être français et un écrivain français, voilà.
Mais vous, Philippe Solers, vous aimez citer à propos de la Révolution ce mot de Baudelaire. La Révolution a été faite par des voluptueux. Est-ce que ça veut dire qu'il faut retrouver la volupté contre ce que vous appelez l'arraisonnement de la question sexuelle par la politique?
Oui.
Il faut retrouver la volupté?
Il faut la continuer, pas la retrouver. Si on l'a ou on ne l'a pas. Si on ne l'a pas, on ne va pas la prendre. Hein, il est certain que l'oubli organisé au 19e siècle, systématique, du 18e siècle français, est quelque chose de tout à fait ahurissant. C'est le peuple de la sensualité ou de la sexualité, appelez ça comme vous voudrez, le plus étonnant, le peuple le plus libre du monde. La France moisie s'achève par cette phrase, à savoir que je suis un Européen d'origine française, qui aura un jour, dans un dictionnaire chinois, c'est en cours, la définition suivante: Philippe Solers, écrivain européen d'origine française, qui très tôt et presque seul s'est intéressé passionnément à la Chine. Donc, tout ça, c'est très clair. Pour moi, c'était Londres, et puis après, ça a été la culture chinoise qui s'éveille et qui est en cours. Qui est en cours très, très, très lentement, très bien, voilà, les châteaux à Bordeaux, etc. Voilà. Tout ça se passe sans un mot, alors que, évidemment, il y a une résistance considérable de tout un socle qui est en cours de liquidation.
Mais alors, avant qu'on prenne la route de l'Extrême-Orient, de la Chine, à la façon, sinon de Marco Polo, peut-être des jésuites, j'aimerais qu'on reste encore un instant en France. Cette France révolutionnaire, cette France du XVIIIe siècle, que vous aimez tant, Philippe Solers, elle était non seulement voluptueuse, mais elle avait aussi ce que vous appelez une langue pensante. Et je crois que livre après livre, c'est ce que vous cherchez à cultiver et à inventer, une langue pensante. Vous avez le souvenir d'instants, de moments où vous avez eu le sentiment de penser avec la langue, ou des sortes d'eureka dans votre bureau ici, aux éditions Gallimard ou ailleurs ?
Voltaire, ça s'appelle. Voilà, on va se tenir à ce nom. Hein. Le malheur des Français actuels, c'est de plus savoir à quel point leur langue a été essentielle à l'Europe. Tout le monde parlait français. Tout le monde voulait être aussi civilisé que la France. Hein. C'est depuis que vous avez une communication à base de petits circuits de basic English ou basic American. Hein, voilà. Donc, c'est la sensualité française s'est exprimée à travers des monuments. Quand Baudelaire, quand est-ce qu'il écrit ça, Baudelaire ? La révolution a été faite par des voluptueux. Hein ? Il avait des raisons d'écrire ça, puisque son père était un curé défroqué qui avait choisi de s'installer d'une façon plus confortable. Hein ? C'est dans un projet de préface aux liaisons dangereuses de Laclos. Il est à Bruxelles, il va sombrer bientôt, voilà, et ça l'intéresse. Donc Baudelaire, en 1867, il est mort là, voilà, il meurt complètement marginalisé. Mais qu'est-ce qu'il vise ? Il dit voilà, la révolution a été faite par des voluptueux. Autrement dit, on a oublié qu'elle avait été faite par des voluptueux. Moi, ça me parle immédiatement. Pourquoi je suis de Bordeaux ? Vous imaginez, je n'ai pas besoin de vous faire un état des lieux de la région. Je suis révolutionnaire parce que je suis girondin. La censure scolaire, politique, constante, porte sur le parti girondin. La révolution est un bloc, vous me copierez ça 500 fois. Et c'est signé Clémenceau. Dès que vous voyez un homme politique se réclamer de Clémenceau, il y en a toujours un, hein, qui va s'agenouiller devant la statue de Clémenceau, qui est un personnage extraordinaire, mais qui avait du goût, parce qu'il était ami avec Claude Monet, les impressionnistes sur lesquels tout le monde crachait à l'époque, attention. Donc, la révolution est un bloc, c'est une faribole. C'est-à-dire que ça consiste à dire que il n'y a jamais eu un parti girondin, c'est-à-dire quoi ? Fédéralistes, c'est-à-dire des gens qui avaient une autre perception de la Révolution. Donc, à partir des massacres de septembre 1792, la Robespierre se rend compte qu'il va falloir organiser un comité de salut public, parce que les massacres, on va en avoir marre bientôt. Hein. C'est Carrier à Nantes, les mariages républicains dans l'eau, c'est Fouché qui va devenir policier de Louis XVIII et ensuite de Napoléon, c'est à Lyon, et c'est Tallien à Bordeaux. Voilà. Donc Robespierre va comprendre qu'il faut créer une sorte de religion de substitution. C'est l'année 89 pour le bicentenaire de la Révolution française que j'écris un livre qui s'appelle Sade contre l'être suprême pour remettre un peu de décence dans le spectacle, un grand spectacle organisé par le président Mitterrand dont l'ambition est très claire, c'est-à-dire d'étouffer tout rappel de la Révolution française. Alors, nous sommes sur cette voie absolument ahurissante d'une République qui ne sait plus de quelle prodigieuse invention et énergie elle a surgi. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ce sont les Allemands, Hegel en l'occurrence, qui a compris ce qu'était la Révolution française. j'accuse, depuis, comme dirait quelqu'un d'autre, l'enseignement d'avoir falsifié la question de la révolution. Or, c'est très important parce que si on n'apprend pas ça dans la langue même où elle a été écrite, alors on devient d'une passivité extraordinaire dans la mondialisation. Vous avez une preuve magnifique de ça. Vous avez en Pléiade les orateurs de la révolution. Vous savez que ces gens ont beaucoup parlé. Ils ont fait des discours et des discours et des discours. Ils étaient très, très, très forts dans l'usage de la parole. Ils jouaient d'ailleurs à partir d'un certain moment leur vie. Ils descendaient de la tribune de la Convention. Ils étaient immédiatement arrêtés, exécutés. Notamment mon camarade Vergniaud de Bordeaux, 40 ans, qui a dit cette chose sublime alors que tout le monde l'empêchait de parler. Ceux qui ne veulent pas m'entendre craignent la raison. Ceux qui ne veulent pas m'entendre craignent la raison. Ça devrait être su par tout le monde, ça, hein, à l'intérieur du bloc, que ce bloc m'écrase. Donc, ça m'écrase parce que on ne veut pas entendre la raison.
Mais alors, votre façon un peu sadienne, Philippe Solers, d'appeler les Français encore un effort pour être républicain, c'est de faire encore un effort pour la littérature. Et dans cet effort, vous qui avez, vous l'avez rappelé, vécu intensément la collaboration, la Deuxième Guerre mondiale, la France de Vichy, et la honte qui s'ensuit de ne pas avoir reconnu cette histoire, d'avoir voulu croire que la France était du côté des vainqueurs alors qu'elle avait été bel et bien vaincue. Votre façon de faire, c'est de signer en particulier les Folies françaises. Est-ce que vous pouvez nous rappeler dans quel état d'esprit vous signez ces Folies françaises qui sont, comme dites-vous, un renversement de la France juive, ce best-seller de Drummond?
Bien sûr. J'ai vu tout de suite quel problème posait le fait de publier chez Gallimard le titre rouge sur fond blanc, Les Folies françaises. Il s'agit tout simplement d'un morceau de musique très beau de Couperin. Donc, c'est un musicien français de la plus grande stature. À peine avais-je publié ce livre, j'ai vu que se détachait ce mot française, de façon qui gênait horriblement tout le monde. Comme c'est étrange. Qu'est-ce que c'était que ce livre? C'était une visite inspirée, je crois, dans le fond de la culture française, et pour célébrer entre un père et sa fille, n'insistons pas sur le fait que elle s'entende mieux que bien avec son père. Non, passons vite. Mais enfin, il en profite, si j'ose dire, pour faire son éducation sur la France. Mais écoutez, j'ai senti que ça ne passait pas. Alors, c'est le livre le moins Front National que vous pouvez lire. C'est au contraire la contre-attaque sur le terrain même où il faudrait agir. Alors, vous avez à la place de ce vide sidérant, en effet, le retour de la France moisie qui a toujours été là et qui n'attend que ça pour se manifester. Voilà quel était le but des Folies françaises.
Vous n'avez pas dit le mot Philippe Solers, mais il y a au cœur de ces Folies françaises une relation incestueuse entre ce père et sa fille. Vous qui avez pu vivre et célébrer les relations d'un jeune homme avec une femme d'âge mûr dans Une curieuse solitude, votre premier roman, est-ce que vous vous êtes senti incestueux à l'égard de la France? Est-ce que c'est, voilà, la mère patrie, vous entretenez une relation incestueuse avec elle?
Ma mère n'a rien à voir avec la patrie. Parce que patrie, aux grands hommes, la patrie reconnaissante, n'est-ce pas? Vous avez ça au Panthéon. Voilà. Où on fait rentrer en catimini une, deux ou trois femmes. Maximum, bien, hein, voilà. Il y a un livre de moi qui s'appelle Femme, hein, vous trouverez absolument tout ce qu'il faut pour savoir comment je me suis débrouillé dans ces époques sombres, hein, de refoulement, de préjugés, de résignation, qui sont de retour. qui sont de retour. C'est-à-dire, il y a une sorte de morale, de moraline, comme dit Nietzsche admirablement, la moraline. La moraline, ce sont des clichés qui sont là partout à chaque instant. Vous réduisez quelqu'un à une étiquette vite trouvée, vite expédiée, tout simplement parce que la pauvreté du langage s'accentue, etc. Incestueux, bien sûr. Il faut l'être au berceau, d'une certaine façon. C'est-à-dire, ça dépend des mères. Alors là, de la mienne, je pourrais vous dire beaucoup de choses, à savoir que c'était un être absolument charmant, qui parlait très bien, qui avait un don d'imitation considérable. Elle pouvait vous faire une petite scène à la Molière. Ah, Molière, oh mon Dieu, celui-là, hein, il fait rire encore le monde entier, si. Voilà, Molière, l'amour médecin. Voilà, pièce de Monsieur de Molière. Oh, que j'aime Molière. Qu'est-ce qui nous manque dans... Molière devrait se présenter à la présidence de la République française. Ça changerait, voyez-vous. Là, pour l'instant, c'est plutôt Guignol. Mais voilà, c'était un être absolument charmant et très, très désinvolte, très ironique. Car la fonction de la langue française, je disais Voltaire, mais c'est ça... Si vous ne comprenez pas le deuxième ou le troisième degré, vous êtes perdu. Or, l'ironie est quelque chose qui n'est plus compris. Il faudrait insister. Il y avait autrefois les points d'ironie dans la marge. Attention, je suis ironique. Sinon, je suis lu au premier degré. Oh mon Dieu, il a dit ça, c'est effrayant. Mais tu dis non, c'est pas moi, c'est dans situation un personnage qui dit ça. Enfin, ça suit, il y a un dialogue. Il y a une capacité de dialogue dans la langue elle-même. Le problème, c'est quand même, qui saura encore lire dans le temps qui vient.
Mais alors pour savoir lire et par conséquent savoir écrire, Philippe Solers...
Il faut savoir vivre.
Et ce qui vous a aidé, vous avez pu le dire et le rappeler, c'est d'avoir appris le latin et le grec. Et alors le latin, ça me fait penser à... Je vois chez vous ce que j'ai retrouvé en lisant Roland Barthes dans ses mythologies, ce qu'il appelle la frange obstinée... des acteurs américains dans les péplums. Vous avez pour moi cette frange obstinée des Romains. Et justement, Barthes de dire, mais pourquoi, jusqu'à Marlon Brando, dans les péplums, les Américains ont-ils cette frange obstinée sur le front? Et il dit, mais c'est pour signifier, afficher la romanité, l'évidence d'être à Rome autrefois. Est-ce qu'avec vous, écrivain européen d'origine française, on est aussi à Rome autrefois?
Bien entendu. C'est pourquoi le péplum hollywoodien a-t-il sauvé d'une certaine façon cette question du buste impérial, hein, bon. Il y avait quand même des problèmes parce que les chrétiens étaient mangés par les lions, etc., etc. Néron est un personnage tout à fait fabuleux qui fait brûler Rome. Il joue du luth en récitant ses poèmes qu'on n'a pas gardés. Il dit quel artiste périt avec moi. Oh là là, enfin ça flambait sec, hein, voilà. Donc Rome a marqué évidemment enfin, tous les esprits, y compris ce qu'il faut bien appeler l'Église catholique, apostolique et romaine, qui est l'objet de tous les ressentiments. Rome, unique objet de mon ressentiment. Oh là là! Et on en parle, et on en parle encore, et on en parle toujours, et il y a toujours un pape, alors un jésuite pape, ça s'est jamais vu, ça, c'était... Mais ils exagèrent. C'est ce repère de pédophiles vicieux, de pervers, etc. C'est le repère de l'abomination... la moraline n'en finit plus sur ce sujet-là. Voilà, c'est très amusant. La guerre religieuse est très importante, notamment en France, bien entendu. Le Voltaire avait une crise de nerfs tous les soirs, tous les soirs où on célébrait l'anniversaire, enfin, si j'ose dire, de la Saint-Barthélemy. Vous savez, c'était quand même un événement tout à fait tragique. C'était une guerre de religion extrêmement importante. Alors, mais le traumatisme est là, bien entendu. Traumatisme, bien sûr. Mais j'aime pas beaucoup Rome. C'est une ville magnifique, bien entendu. Mais ça n'est pas la ville de la liberté esthétique. La ville qui concentre absolument tous les sens à la fois, c'est-à-dire surtout l'ouïe et la vue, la musique. la peinture, l'architecture, ça va de soi, c'est Venise. Donc les ports, je peux mal vivre si je ne suis pas près de l'eau. C'est Bordeaux, Venise, Barcelone, où j'ai été très heureux dans ma vie sentimentale. Une ville que j'aime beaucoup, c'est Hambourg. Hambourg, Hitler n'aimait pas aller à Hambourg. C'était une ville trop anglaise, etc. La ville des ports n'est pas la ville du centre. Nous sommes désormais, vous en êtes bien conscient, dans une municipalité française de Corrèze, en gros. Hein, c'est pas, vous êtes dans un conseil municipal permanent qui procède à des élections pour changer le conseil municipal. Hein, c'est pas la France de Louis XIV ou de Napoléon qui vous parle. C'est le conseil municipal de la région ou de la petite localité de la région avec les fonctionnaires qui fonctionnent. Bon, pourquoi pas? La France se vit comme une municipalité, avec des querelles intestines, où les gens se déchirent parce que c'est tout le monde veut être président du conseil municipal. Voilà.
Vous occupez quel rôle dans cette vie villageoise? Vous êtes le chaman?
Non, pas du tout.
À l'écart, justement?
Je suis dans ma tour, qui n'est nullement une tour d'ivoire, mais qui ressemble beaucoup à celle de Montaigne. Pas du tout la même époque, mais même situation d'urgence. L'état d'urgence pour Montaigne et pour moi, c'est de préserver absolument la bibliothèque, les traces, l'archive. Hein, ça n'est pas du tout être conservateur. Bien au contraire, on attend une époque plus favorable pour se faire entendre. Ou autrement dit, si vous transposez, ça peut durer longtemps, la télévision, BFM TV, tout le temps, les primaires et toutes ces conneries. Bon, tous ces discours en boucle, qui sont, et si on les traite avec ironie et distance, c'est stupéfiant. Vous voyez des journalistes qui sont en train de commenter les commentaires qu'ils viennent de faire, alors que le matin est déjà loin, que la soirée s'annonce et que demain, ça sera tout encore autre chose, bien que ce soit toujours la même chose en boucle. Voilà, vous avez quelque chose qui ressemble en effet à du gothique hyper moderne. Voilà, mais c'est gothique.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Martin Kénéen avec Philippe Solers. À voix nue, attaché d'émission Claire Poinsignon, prise de son Yves Lehorse, Yvan Turc, réalisation Rafik Zénine, coordination Belindola. Cette émission s'écoute en ligne et se podcast sur franceculture.fr.